Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous allons, si vous voulez bien, démarrer ce soir, dans nos lectures en liberté, un texte de Alain Emery, intitulé « Passage des mélancolies ». Même après tout ce temps, il arrive encore qu'au cœur d'une nuit comme celle-ci me vienne l'envie de monter sur la terrasse. Mais je sais déjà, avant que je ne sente sur ma peau l'haleine musquée du large, avant même que je ne prenne place dans ce fauteuil où, de son vivant, personne n'aurait osé s'asseoir, que les bruits qui m'ont sorti de mon lit se révéleront des mirages. Je ne la retrouverai nulle part. Pas plus dans le chuchotement de la mer, qui n'est à cette heure qu'une balafre mauve sur la ville endormie, que dans l'humeur salée du vent. Je peux bien rester jusqu'à l'aube, je ne l'entendrai jamais plus fredonner une de ces vieilles rengaines. Rien ne peut désormais me rapprocher d'elle. Je devrais être triste, mais j'ai mille choses à faire. Suzy disait cela vers la fin. Quelques mois avant qu'elle ne s'éteigne dans mes bras, elle me répétait, avec ce sourire qui n'est plus une énigme, qu'il me faudrait, quand elle ne serait plus là, me méfier des mélancolies. Il n'est pas rare qu'après leur passage, disait-elle, se disloquent des hommes et des femmes qu'on croyait d'un seul tenant. Ils en viennent à bouleverser le cours de leur existence. Ils tirent des traits définitifs et sans raison apparente. Savent-ils seulement que leur vie en dépend ? Se mettent à poursuivre une idée fixe, un or inattendu, ou parfois même une baleine, aussi blanche que l'os. J'ai bien retenu la leçon. Alors, quand au lever du jour la fatigue me gagne, quand j'en ai assez de la chercher sur cette terrasse où elle n'est plus, tandis qu'en moi s'évente peu à peu la magie, je songe à ces mers brumeuses, au cœur desquelles s'estompent jusqu'à disparaître les contours de toute chose, et je m'estime heureux. Ni la perte, ni l'absence ne m'ont changé. Je suis le même qu'autrefois, avec, aurait-elle murmuré, des milliers de souvenirs en plus. C'est un feu précieux. Je l'abrite comme on couve une flamme entre ses mains jointes. C'est à moi qu'il revient de prendre garde au moindre souffle et de veiller jour et nuit à ce qu'il ne s'éteigne pas. Je n'ai pas le choix. Je suis tout ce qui reste de nous. D'ailleurs, qu'étions-nous l'un pour l'autre ? De simples voisins de palier, pour la plupart des gens. Suzy, quant à elle, préférait voir dans le couple insolite qu'à chaque tombée du jour nous reformions les passagers désuets d'un vieux transatlantique. Le crépuscule l'embellissait. Elle portait pour l'occasion de somptueuses robes du soir, d'élégants bijoux, quelques perles, un peu d'or fin, se parfumait de trois gouttes d'un délicieux jasmin et, s'accrochant à mon bras, De l'autre main s'appuyant sur sa canne à pommeau, elle m'entraînait sur le pont. Avant elle, je n'avais jamais vu notre terrasse comme la proue d'un navire à l'ancre. Il m'est désormais impossible de l'imaginer autrement. Je prenais ce caprice pour du sucre. Une gourmandise de l'âge. D'elle, à cette époque, j'ignorais tout. Entre autres, qu'elle avait dansé sous les lustres en cristal des plus grands paquebots, foulé pieds nus les coursives, sabré le champagne au passage de l'équateur. À présent, je sais que lorsque nous dansions sous la lune, la main qu'elle glissait dans la mienne ne tremblait pas de froid. Bien sûr, et je passerai sur les détails, le fiel et la liqueur des communs, certains ont prétendu que nous étions amants. Qu'ils me croient sur parole, si nous avions eu la chance de triompher du temps, nous le serions devenus. Mais 60 ans nous séparaient. Cette injustice a suffi à tenir nos deux corps éloignés l'un de l'autre, mais de nos âmes, nos cœurs ou nos esprits, appelez ça comme vous voudrez, rien n'aura eu raison. Ce que nous étions au juste. Je songe à ces couples de danseurs qui, une fois l'orchestre parti et les lumières éteintes, refusent de rompre le charme et valsent en silence jusqu'à ce qu'on les oublie. En ces instants où la vie peut sembler aussi belle qu'absurde, entendriez-vous battre leur cœur à l'unisson que vous ne sauriez rien de leurs sentiments ? Leur ombre se fond dans la nôtre. Je ne crois qu'en ce que j'ai vu dans ses yeux mauves, qui paraissaient désormais cerclés d'un métal précieux. N'y brillait aucun des hommes qui, des décennies plus tôt, avaient espéré s'y perdre. D'eux, il ne restait rien. Pas même un reflet. J'étais le dernier. Le seul à lui tenir la main au seuil de la nuit. Croyez-moi, Suzy, même quand vous évoquiez l'inéluctable, quand vous parliez avec cette insolente légèreté de votre mort, j'étais loin d'imaginer qu'un notaire tiré à quatre épingles, respectant vos dernières volontés écrites, me confierait vos cendres. Qu'il m'expliquerait, alors même que je respirais sur ma veste l'écho de vos trois gouttes de jasmin, qu'il m'appartenait désormais de les répandre où bon me semblait. Bien sûr, je n'ai rien vu venir. Mais vous le saviez, Suzy, je n'ai jamais eu Dieu que pour la vie. Vous me tenez la main à présent, vous l'avez prise au lendemain de vos funérailles et vous ne l'avez plus lâchée depuis. Mine de rien, vous m'avez conduit où personne n'était allé avant moi. Dans l'affectueux désordre de votre appartement, au milieu des bibelots, des breloques, des courriers, au cœur d'une existence déployée en éventail, j'ai marché sur le fil de vos jours, jusqu'à la source. En chemin, j'ai tout vu, de la beauté pure à l'inépuisable bêtise humaine. Sans vous, je ne m'en serais pas tiré. Allons-y à présent. Le livre s'ouvre le 8 août 1903, quand Suzy vient au monde, dans une maison cossue du petit bourg de Saint. Ils me rendront grâce d'avoir gardé le secret sur leur identité. Sa trace, quelques pattes de mouche ciselées à la sergent-major, à peine une éraflure sur l'épais registre de l'état civil, fait figure d'avertissement. La vie, fut-elle un filet d'encre, ne revient pas sur ses pas. Il faut bien que Suzy se fraye un chemin dans ce pays de lave noire, qu'elle se glisse sous les tilleuls et les faillards, et qu'elle se mesure aux montagnes. La légende ne dit-elle pas qu'ici, dans la nuit des temps, géants et dragons se sont entretués et que ces cadavres, entassés les uns sur les autres, ont donné leur forme aux collines alentour? L'horizon, c'est vrai, est comme un amoncellement de torses, de cuisses et d'encolures. L'os est là, d'un bleu de forge, qui pointe parfois sous le duvet des pâtures. En ce début de siècle, c'est encore une terre sauvage. L'eau coule de partout, comme le sang suintant d'une plaie, mais ne court pas jusqu'aux maisons. Elle ne s'apprivoise qu'au col de cygne des fontaines, dans ces tuyaux de bronze dont l'éclat est plus vif en leur extrémité, à l'endroit où se posent, telles des sangsues, les bouches de passage. La nuit, qui tombe en ces vallées profondes plutôt qu'ailleurs, on s'en remet aux lampes à huile pour éclairer le monde, qui n'a pour l'époque pas plus de 10 pieds de long, à vrai dire, tient tout entier dans ce fameux carnet mondain dont Suzy plus tard collectionnera les numéros, l'illustration. Le médecin qui arrache Suzy au ventre de sa mère, cette nuit du 8 août 1903, est un humaniste en calèche. Lui vit en lisière de ces ténèbres. Il nous faudrait l'interroger, l'entendre nous dire qu'en venant, il est passé devant une maison basse, aux pierres pourpres, à l'intérieur de laquelle, moyennant poulets et pièces de bœuf, un gaillard illettré panse le feu et replace les épaules démises à grands coups de genoux. Peut-être finirions-nous par comprendre pourquoi, en ces lieux coupés de tout, il ne faut s'étonner de rien. Ces quelques kilomètres carrés, Dieu, qui n'existe pas, les regarde de haut. Après tout, ne grouille-t-il pas de paroissiens qui confondent allègrement l'évangile et la magie noire? Il cloue des chouettes sur les portes et s'asperge d'eau bénite, cache des pattes de lapin au fond de leurs poches et adresse des neuvaines à Saint-Georges. Qu'attend-on des immenses vierges blanches qu'on a perchées sur le front des montagnes, telles des figures de proue, sinon qu'elles éloignent le mauvais œil, protègent le bétail et rendent fécond le ventre des mères. S'ils croient avec autant de ferveur aux jeteurs de sorts qu'à la résurrection du Christ, c'est sans doute qu'au fond, ils sont à peine sortis de l'âge de pierre. Avec les bestiaux qui ont fait leur fortune, ils partagent la même peur, la même odeur brutale. Dans leur cœur, tout a un poids, un prix. Le regard des autres, le paradis sur terre comme au ciel, l'honneur, le bon droit, et toutes les foutaises du même tonneau.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à fausse la ferme, c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. taquine sourds au milieu qu'éclabousse du bon Dieu joli môme. Taquine porte en voile blanc que l'on pousse en chantant joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Passage des mélancolies, Alain Emery. Comment diable avez-vous fait, Suzy, pour demeurer vivante, vaille que vaille, et camoufler votre incandescence sous vos paupières closes, pour ne pas tomber en cendres sur les bancs de l'église où, chaque dimanche, vous traînez vos parents? Je vous devine, comme au travers d'un crêpe noir. J'entends la litanie des jours. Tiens-toi droite, baisse les yeux, ne souris pas bêtement. Et je sens qu'il monte en moi comme il gagnait sur vous le poison des heures monotones, cet ennui qu'on dit mortel. De l'enfance, vous parliez comme d'un interminable corridor. Soyez tranquille, je comprends. Désormais. Quelle trace demeure-t-il de ceux qui l'ont élevé de la sorte? Quelle empreinte, insignifiante ou essentielle, ont-ils laissé dans la glaise de leur fille unique? Lui ont-ils légué la forme d'un nez, d'une paupière? Je n'ai rien trouvé. Deux, il ne reste ni statue équestre, tu penses, ni portrait en pied de 2 mètres sur 3. Pas davantage de noms de rue. Mais saint n'en compte pas tant, une fois Foch et De Gaulle honoré, on a fait le tour. Et pour tout dire, pas même un cliché que Suzy ait jugé bon d'encadrer. Rien. Il aura fallu que je me penche sur une pierre tombale, 3e allée, 6e rang, pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait Louis, le père. Dans le médaillon, le visage se confond avec celui de milliers d'autres. Comme eux, il n'a ni éclairé le ciel, ni séparé la mer en deux. C'est un homme quelconque. De la mèche rabattue sur le front, comme des chairs un peu cuites, aurait-on dit, je n'ai rien obtenu d'éclatant. Rien dont on puisse tirer un caractère, rien non plus, qui trahisse un élan. Tout juste un semblant de sévérité, propre à ceux qu'accaparent l'algèbre et les précieuses mécaniques. Pour le reste, rien de ce que j'ai appris, en fouillant un peu, ne relève du secret. C'est un horloger de province, le meilleur, le seul, de Saint-V. Quand il n'endosse pas une blouse blanche, pareille à celle d'un mandarin des grands hôpitaux, il porte, été comme hiver, un costume 3 pièces en gros drap, col cassé, trempé dans l'amidon, semblable à celui dans lequel on le glisserait entre 4 planches. En pleine lumière, sans doute passe-t-il pour un bon chrétien. De l'or dans les mains et le cœur par-dessus. Mais dans l'ombre de son atelier, derrière la loupe à l'œil, celle, excusez du peu, des diamantaires et des orfèvres, au-delà de l'os du front, dans ces marécages obscurs où nous fomentons nos complots, où s'accouplent, qu'on le veuille ou non, nos désirs et nos peurs, que se cache-t-il? Dans les cartes que je suis parvenu à coucher sur le tapis, j'ai d'abord vu l'orgueil. Vous conserviez, Suzy, la missel lui appartenant, annotée de sa main, reprenant comme une profession de foi sa fameuse règle des 3 P. L'une à la suite de l'autre, la patience, la précision, la perfection. Le péché est à sa taille, un petit orgueil à hauteur d'homme, celui de l'aîné d'une tribu de 6 garçons, le premier depuis les origines à n'avoir sous les ongles ni cambouis ni terre noire. Un défaut presque touchant qu'il aborde comme un œillet à la boutonnière et qu'il est sans doute aisé de confondre avec une fierté légitime, les horlogers sont les maîtres du temps. Si c'est à la portée du premier mort venu d'arrêter le balancier d'une pendule, commander aux aiguilles, réduire l'éternité en poudre, donner la cadence et la conserver contre vents et marées, ça, c'est un ministère. Pourtant, Louis, figé sur le fronton de sa sépulture, n'est pas parvenu à m'éloigner de son autre versant. La face nord de cet homme, dont l'ombre, qu'elle le devance ou le suive, comme un petit chien, fut toujours trop courte. La peur le domine. Que craint-il au juste ? Ce que redoutent ceux qui, au terme de 1000 sacrifices, en se servant de leur vanité comme d'un marchepied, sont parvenus à s'élever d'une tête au-dessus des autres. À peine un cran au-dessous du notaire, du toubib, au même rang que l'instituteur ou le receveur des postes. Il sait que la moindre rumeur chuchotée sous le manteau peut déclencher la curée, le dépecer sur place, comme un vulgaire gibier. S'il voit en ses congénères une houle féroce, capable de tout ravager au moindre soupçon, c'est parce qu'il a eu le temps d'en juger. Devant son seigneur et ses semblables, il avait épousé une des chiennes de cette meute, la belle Irène. Votre mère, Suzy, ce ventre dont vous avez jailli, son sang mélangé au vôtre, votre mère dont vous ne parliez qu'à regret sans jamais réussir à masquer le dégoût qu'elle vous inspirait, elle était assurément sotte, tout ce que j'essaie d'elle le prouve, mais son âme creuse reposait sur des os délicats. Vous lui deviez vos tréfins. À votre âge, sans doute n'avait-elle pas su que faire de cette encombrante beauté. Aussi l'avait-elle sacrifiée sous les chignons austères, les robes rêches et les chapeaux sans forme. Des choses convenables, bien comme il faut, vous disait-elle, en prenant soin toujours de reculer d'un pas, vous donnant ainsi l'impression de se dérober, de vous craindre, alors qu'elle ne songeait qu'à mettre entre elle et le reste du monde, dont vous étiez, Suzy, une distance raisonnable. Dans ce qu'il reste de vous, qui brûliez la chandelle par les deux bouts, aimiez l'amour et le plaisir, preniez la vie pour ce qu'elle est, je cherche en vain l'écho de cette femme. Comme on espère reconnaître une empreinte laissée dans la glaise, je ne vois rien, et chaque heure passée l'éloigne davantage de nous. Son visage estompé se fond dans l'obscurité qui s'approche. Elle disparaît dans cette nuit sans nom à laquelle les meilleurs d'entre nous ne survivront pas. Votre mère, Suzy, ce ventre, ce sang. Et ce souvenir si violent, celui d'une femme à jamais dressée dans l'ombre et le jugement, parfaite d'un point du jour à l'autre, quoi qu'il advienne, si violente. Vous rendez-vous compte ? Que vos yeux, où flottaient d'épais foulards mauves, semblables à ceux qu'on agite sur le quai des départs, se mouillaient de larmes à sa seule évocation. Mais parlons d'autre chose, du temps, voulez-vous ? Justement, il passe, le temps. Comme on souffle sur des braises avec plus ou moins de bonheur, à Saint-V, l'heure vient pour le dernier loup de mourir sous les coups d'escopette d'une horde de paysans. C'est le progrès qui déboule en cornant. La veille de Noël 1913, on aperçoit qui remonte de la grande rue en pétaradant une brasier flambant neuve. Une page se tourne, mais le temps n'épargne personne. Il ouvre en deux le monde qui n'est en ce début de siècle qu'une corolle vénéneuse et engrange les naufrages, les épidémies et les tremblements de terre. Il fauche à tour de bras et ne suspend sa course que pour de grandes occasions. Ainsi préside-t-il aux ultimes secondes du dernier soupir d'un fameux archiduc assassiné et jeté cul par-dessus tête dans une ornière dont Suzy n'entendra jamais parler qu'à mots couverts. La guerre est pour elle une rumeur lointaine, dont elle voit revenir estropiés et cadavres, qu'on prend soin de lui cacher comme il se doit. Mais comment pourrait-elle imaginer qu'au-delà de ces collines où elle garde les troupeaux, des milliers d'hommes s'embrochent sans raison ? Mais le temps passe, justement. Et déjà se dressent un peu partout les cocards des monuments aux morts. À Saint-Vé, comme ailleurs, les survivants ont tant à faire qu'il en oublierait que, tandis qu'on s'étripait à la baïonnette, alors même qu'on grave à présent dans le marbre et sous les fanfares le nom d'un fils, d'un père, d'un frère ou d'un amant, rien ne s'est arrêté. Avec Suzy, le temps a fait son œuvre. Il a enlevé un peu de chair d'un bout, en a rajouté de l'autre, et façonner sans s'en soucier un corps dans lequel une fillette aux longs cheveux bruns pourrait se perdre à tout jamais. Affinant ce qui devait l'être, il a travaillé pour le désir des hommes. Tandis qu'on fête la victoire en cet hiver 1918, qu'on danse sous les flonflons, les hommes, qui sont encore la mort et ne ferment pas les yeux par crainte de la foudre, se demandent qui est donc cette troublante jeune fille dont ils ne parviennent pas à soutenir le regard, cru, insolent, diront-ils des années plus tard. Et ce qu'elle peut bien attendre de la sorte, les mains sur les hanches. Aucun d'eux ne le saura. Rien n'est plus effrayant que ces premières convoitises, écrit-elle dans un de ses innombrables carnets. C'est comme de s'allonger à même le sable et de sentir la mer glacée monter le long de votre corps qui vous réclame à cet instant ce que, de toutes ses forces, votre esprit repousse. Le sentiment qu'elle inspire et qui rapidement la précède où qu'elle aille a tout de la lame d'un couteau. C'est à la fois violent et sournois. Bien sûr, elle n'a pas idée de ce que les mâles imaginent en la contemplant de biais. Mais elle pressent que c'est une histoire vieille comme le monde et qu'elle n'a au bout du compte que peu de chance d'y échapper. Aussi se renferme-t-elle. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc le début de ce texte de Alain Emery, Passage des Mélancolies, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.